Oui. Bienvenue au chaud, dans notre salle bien isolée. On n'a jamais eu si chaud dans le hall, je pense. C'est trop fort ou ça vous va? Je me recule un peu. Et je vous propose un cantique, le 160. Jésus-Christ et ma sagesse. Oui. J'aurais dû en mettre sur les chaises. Merci à ceux qui distribuent. Tu peux baisser d'un tout petit cran, Yasmina, peut-être? Merci. Tu sais où faire ça? Tout à gauche. Si tu baisses un peu. Voilà, merci. T'as déjà baissé? Oui, c'est mieux. Ça résonne à peine moins. Merci beaucoup. On va parler de construire ce soir. Et je vous propose de nous souvenir que Jésus-Christ est celui qui peut nous aider. Oh, on a même un pianiste, une pianiste. Merci, 160. 160, Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sermain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sermain. Jésus-Christ est ma justice, son sang a collé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est pas attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi de péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi de péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, merci, parce que nous pouvons nous retrouver ce soir pour passer un temps de lecture de ta parole, de chant et de prière. Merci parce que Jésus-Christ est notre sagesse, il est notre justice. Il est celui qui a tout accompli pour que le salut nous soit parfaitement offert. Nous te prions ce soir pour notre sœur Doris et toute la famille touchée par ce départ du papa. Et nous te demandons d'aider les uns les autres à regarder à toi. Nous te demandons de nous bénir pendant ce temps de méditation, d'étude maintenant, et de permettre que cela nous aide à progresser dans notre vie, chacun là où nous en sommes. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, sixième étude de notre thème de l'année 2017-2018, j'ai décidé de grandir. Rapide rappel, premier thème, pour voir si nous avons progressé depuis septembre. Faire les bons choix, cela fait partie de la maturité. Deuxième thème, bien savoir qui nous sommes, qui on est. On a osé un thème de type anthropologique, psychologique. Troisième thème, hommes et femmes, se comprendre le mieux possible. Et nous avons reconnu, avec un peu d'humour, mais surtout avec modestie, que c'est difficile de comprendre l'autre. Quatrième thème, se forger un bon caractère. Accepter le défi d'être transformé par le Seigneur et reconnaître que c'est extrêmement important pour grandir en lui. Le mois dernier, savoir écouter sans tout croire. À une époque où il y a ce que certains appellent des fake news, des faux bruits qui se promènent, et c'est très facile avec les moyens modernes, mais ça existait depuis toujours, les faux bruits. Et les médisances et les fausses croyances, comment s'y retrouver et faire le tri. Ce soir, construire un foyer paisible. Je vais commencer par le milieu, pour savoir de quoi on parle. Un foyer, construire paisible. Donc tout d'abord, un foyer, de quoi parle-t-on quand on parle d'un foyer? Bravo, merci beaucoup Jocelyne. Le feu dans la cheminée. Bien sûr, étymologiquement, c'est ça un foyer. Et donc c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe autour du feu? On se réunit autour du feu, à la maison. Et donc c'est l'expression vraiment voulue. On ne parle pas de construire une famille paisible, mais un foyer. L'idée, c'est d'inclure tout le monde. Le Larousse nous dit le lieu où l'on fait le feu. C'est ce que Jocelyne nous a rappelé. Le lieu où l'on habite. Recevoir un étranger à son foyer, c'est l'accueillir à côté du feu que l'on a préparé. Et ce que nous retenons donc pour notre étude ce soir, le foyer, c'est notre lieu de vie où nous souhaitons grandir, pour le raccrocher à notre thème de l'année, progresser. Donc nous sommes bel et bien tous concernés, englobant toutes les situations de vie que nous pouvons connaître, célibat, mariage, famille, veuvage. Le lieu où nous voulons nous organiser le mieux possible pour nous-mêmes est aussi un lieu d'accueil pour les autres, nous permettant d'exercer l'hospitalité. Donc avec ce thème, nous commençons par nous-mêmes, par nos responsabilités, dans notre chez-nous. Et dans les mois qui viennent, nous parlerons de l'Église, de la société, du travail, comme autre lieu de vie. Donc ce soir, on parle de chez-nous. J'en viens au verbe qui introduit tout cela, construire. Construire un foyer paisible. Et je vous propose quelques lectures maintenant. Tout d'abord, des rappels de principes généraux, et ensuite quelques textes que j'ai cherchés plus en relation directe avec le foyer, avec mon chez-moi, avec ce qui fait que ma vie s'organise autour de ce fameux feu que nous ne faisons plus de la même façon, mais qui évoque bien l'endroit où je m'organise. Donc tout d'abord, quelques principes généraux pour construire notre vie. Et j'ai pensé commencer en faisant un clin d'œil à notre devise de l'année 2018 qui dit quoi? Bravo Jeannine! Il faut que Jésus ait beaucoup de place. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dans les versions plus anciennes. Il faut que Jésus prenne de plus en plus de place Oui, Jean 3:30 nous donne un des principes généraux pour bien construire notre vie. Il faut que Jésus prenne vraiment sa place. Un texte qui nous dit la même chose avec une parabole que je vous propose de relire, Matthieu 7, nous parle bel et bien de construire, soit sur le sable, soit sur le roc. On connaît bien cette parabole, mais je vais la relire en ayant en tête notre question de ce soir. Quels sont les principes que l'on peut garder en tête, que l'on peut mieux comprendre pour construire des foyers paisibles. Matthieu 7, 24 à 27. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Qu'est-ce que l'on peut retenir ce soir, à nouveau souligné, de cette parabole bien connue quand nous cherchons à construire des foyers paisibles? Qu'est-ce que on peut relever comme enseignement principal de cette parabole? Il y a un fondement, l'importance des fondements. Ça ne sert à rien de construire quelque chose de très très joli, sophistiqué, tout ce que l'on veut, si le fondement n'est pas solide. Tout va s'écrouler. Importance du fondement, oui. Donc ça, c'est l'image. Et qu'est-ce que nous dit, de façon, si on cherche les applications, sur quoi Jésus met l'accent en racontant cette parabole ? Deuxième chose, quel que soit le fondement, la vie va nous faire rencontrer des situations diverses et, entre autres, des situations d'épreuve. Dans l'image de la parabole, le mauvais temps, la tempête, les vents qui éprouvent la maison. D'accord ? Mais si, oui ? L'importance de vivre sa parole. Un mot, c'est très bien. Un mot peut-être encore à peine plus simple que Jésus utilise ici. Quel est le sage ? Quel est le fou ? Les deux entendent la parole. Quel est le sage ? Celui qui la met en pratique. Celui qui met la parole en pratique. Vous m'entendez assez souvent utiliser ce mot, probablement parce que je réfléchis beaucoup, parce que j'en ai besoin, parce que je suis souvent mal à l'aise devant le défi de ce mot, la cohérence de vie. Une des choses qui fragilise ma vie et ma façon de construire un foyer, c'est le manque de cohérence dans ma vie. Chaque manque de cohérence est quelque chose qui fragilise ma construction. Et plus je grandis en cohérence, plus la construction est solidifiée et indemne de toutes ces failles liées au manque de cohérence. Celui qui entend la parole et qui la met en pratique est semblable à celui qui construit sur le roc. Donc il nous faut être de ceux qui continuent à faire beaucoup d'efforts pour mettre en pratique cette parole et à ne pas seulement la connaître, la comprendre mieux, la mémoriser, d'excellentes choses, mais il nous faut vraiment la mettre en pratique. Troisième texte qui nous parle de construction, 1 Corinthiens 15, la fin du chapitre bien connu, nous parlant de la résurrection. Il nous parle aussi de notre vie ici, avant notre rencontre avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. J'y vois un troisième principe ici, très général, concernant qui touche à la persévérance et aux efforts. Soyez fermes, inébranlables, progressez toujours. On pourrait relire 1 Thessaloniciens 4 aussi qui nous parle de persévérance. Quand on parle de construction, on parle de quelque chose qui prend du temps. On a même le droit de sourire, en sachant qu'il y a presque toujours des retards dans la construction. Une construction n'est jamais quelque chose qui se fait en un clin d'œil. Et donc, il nous faut accepter, pour construire des foyers paisibles, que tout cela prend du temps et qu'il nous faut travailler dans la durée. Un dernier texte pour ces principes généraux, qui nous parle aussi de persévérance, 1 Timothée 4:8. 1 Timothée 4:8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Exerce-toi concernant ta vie intérieure, concernant ta relation avec le Seigneur. C'est un vocabulaire sportif que j'ai relu avec un sportif tout à l'heure. Et on pourrait traduire, c'est pas très joli, gymnase-toi. Gymnase-toi dans ta vie intérieure. Et ça nous parle d'effort, ça nous parle d'exercice, ça nous parle d'entraînement. Et l'image du sportif est souvent là, dans les lettres de l'apôtre Paul. Construire un foyer paisible, ça passe par beaucoup d'efforts et par beaucoup de persévérance. Voilà quelques principes généraux qui me sont venus à la pensée en réfléchissant à ce qui peut m'aider à mieux construire un foyer paisible. Christ au centre, ne pas se contenter d'écouter la parole, mais la mettre en pratique. Construire dans la durée et accepter de faire des efforts à répétition, comme quand on s'entraîne en tant que sportif. Deuxième partie, toujours avec ce verbe « construire » en tête, plus spécifiquement pour nos foyers, je pense que le psaume 127, bien connu, peut nous aider à continuer notre réflexion ce soir. Psaume 127, versets 1 et 2. Si l'Éternel ne construit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. J'arrête la lecture ici. Beaucoup ont probablement en tête les versets qui suivent. Versets 3 et suivants parlent des enfants que Dieu peut donner. Mais je m'arrête ici et je propose que les versets 1 et 2 nous donnent un principe de construction de vie indépendamment du nombre d'enfants. Puisque nous voulons réfléchir ce soir à ce qui nous concerne tous, la construction de foyers qui tiennent la route, de foyers paisibles, de foyers qui font du bien. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ça s'applique à celui qui construit son foyer sans forcément avoir une vie de couple et des enfants. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui veulent la bâtir travaillent en vain. Il nous faut donc nous souvenir que Dieu seul peut construire. On a chanté tout à l'heure un chant qui évoque Jean 15. Jésus est le cep, nous sommes les sarments, nous devons être attachés à lui. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Est-ce qu'on peut en arriver à des applications concrètes dans notre vie, autour de notre feu, puisque nous parlons de notre foyer? Qu'est-ce qu'on peut faire autour de notre foyer, éventuellement avec des gens qu'on invite, éventuellement seul ou en couple ou en famille, qu'est-ce qu'on peut faire en mettant en pratique le psaume 127 ? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent se fatiguent pour rien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement ? On laisse Dieu faire, donc on attend que tout se passe tout seul ? Non. L'importance de la prière, oui. À l'Église, on veut prier, chanter. On a réfléchi au temps de louange. Dans notre rencontre vie d'Église récemment, on veut que ce soit pertinent, que cela nous aide et que cela corresponde à tous ceux qui sont là dans des situations différentes. Mais à la maison, on parle de la maison là. Hein? Ceux qui construisent leur maison travaillent en vain si Dieu n'est pas dans le coup. Première remarque concrète, oui, prier. Il nous faut absolument cultiver un esprit de prière, pas seulement dans le contexte de l'Église, mais dans notre, la construction de notre maison. Quoi d'autre ? S'appuyer sur la lecture de la parole de Dieu chez nous pour trouver des principes et construire notre vie. Très bien. C'est du concret, ça. Quoi d'autre ? Oui, tu nous dis qu'on peut construire en oubliant Dieu. C'est bien ça que tu nous dis ? Et ça peut fonctionner, je suis d'accord. Mais ce texte nous dit qu'il est extrêmement important pour construire sa maison de ne pas oublier que celui qui sait tout, qui peut tout, qui est l'architecte par excellence, c'est Dieu. Donc ça veut dire qu'il nous faut l'écouter. On a parlé de prier, on a parlé de lire la Bible. Et je vais oser un mot qui m'est venu dans la préparation depuis quelques jours, et certains savent que j'y pense de temps en temps, c'est le culte de famille. Et ça marche pour un célibataire. Le culte à la maison, il paraît que c'est plus trop à la mode. Est-ce que c'est dépassé ? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai eu du mal à le mettre en pratique depuis 30 ans ? Oui. Est-ce que je me suis un peu bagarré pour le vivre ? Oui. Est-ce que j'en ai beaucoup bénéficié dans les 20 ans précédents ? Énormément. Je pense, je vous invite à y réfléchir, chacun autour de notre foyer a la place du culte à la maison. Et ça, je l'ai pratiqué en tant qu'étudiant, célibataire, dans ma chambre d'étudiant à Paris. L'importance des temps de recueillement autour de notre feu, on parle de notre foyer. Et si on est en couple, si on a des enfants, en famille, et si on a des invités, avec les invités, le culte autour du feu, c'est peut-être un mot plus joli que culte de famille, le culte autour du feu, je vous invite à y repenser et à demander à Dieu de nous aider à ne pas négliger ce qui est peut-être un peu moins pratiqué qu'à certaines époques. J'étais très reconnaissant de visiter très récemment quelqu'un qui se relève d'une période de grande difficulté spirituelle et qui m'a dit cela. Il redécouvre qu'il devrait mettre au centre de sa vie chez lui la lecture, l'écoute, la prière, et si possible aussi avec son épouse et avec ses enfants. Quelqu'un me l'a dit il y a quelques heures, et je ne lui ai pas donné mes notes. Et je pense qu'il y a quelque chose à méditer là. Josué 1 nous parle de ça, vous connaissez ce texte. Josué 1, verset 6 et 8, ce n'est pas dans le contexte. Alors bien sûr, de l'Église, vous allez me dire c'est anachronique pour Josué, mais ce n'est pas dans le contexte de la vie communautaire que ce conseil est donné à Josué. Josué 1, verset très connu, 6 à 9. « Fortifie-toi, prends courage, c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce texte qu'on dit depuis 15 minutes avec différents textes? Qu'est-ce qu'on retrouve? La centralité de la parole de Dieu par rapport à Matthieu 7. La mise en pratique, vous avez remarqué, hein, mettre en pratique. Et puis, ce que je dis depuis 4-5 minutes, l'importance de le faire autour de son propre feu. Il ne s'agit pas de la vie communautaire, là. Il s'agit bien d'avoir ce livre de la loi régulièrement, chaque jour, devant nous pour qu'on le médite. Et comme nous le rappelait Jocelyne tout à l'heure, pour y trouver des principes de vie autour de notre feu. Pas simplement à la synagogue pour plus tard, pas simplement en offrant les sacrifices dans la tente de la rencontre à l'époque de Moïse, pas simplement dans l'Église depuis 2000 ans, mais autour de notre propre feu. Fin du livre de Josué, Josué 24, 15, un autre verset très connu, mais c'est intéressant de remarquer que c'est tout à la fin du livre. Josué 1, c'est tout au début, et Josué 24, c'est tout à la fin. Et qu'est-ce que Josué va dire en Josué 24, 15? Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avec le même souci d'une application pour chacun d'entre nous, je vous propose que ce verset peut être médité en disant « Moi, autour de mon feu, je veux servir l'Éternel. » Hein ? On est dans le domaine de la responsabilité personnelle. Vous avez vos choix à faire, dit Josué. Moi, dans la construction de ma vie, je veux servir l'Éternel. Est-ce que ce qui m'a interpellé en méditant ce texte, c'est que on est tout à la fin de la vie de Josué, et dans mes notes, j'ai mis « choisir » et « re-choisir ». Il y a une place à 50, 60, 70 ans, et même plus, pour re-choisir. C'est ce que Josué fait là. Il est vieux et il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et il y a une place pour re-choisir de construire en écoutant l'Éternel. Voilà quelques remarques de textes qui nous parlent plus précisément de construire sa maison, de construire ce qui se passe dans notre vie personnelle et autour de ce que nous appelons ce soir notre feu, notre foyer. Un autre mot concernant ce foyer à construire, il me semble important de nous souvenir que ce foyer, ce feu, n'est pas simplement pour que nous puissions bien grandir, mais c'est un lieu d'accueil, selon la parole de Dieu. Et il y a de très nombreux textes qui nous donnent des exhortations dans le style « les uns les autres ». Prenez soin les uns des autres. Acceptez-vous les uns les autres. Il y en a plus que 50 entre Romains 1:1 et Apocalypse. Simplement dans les lettres, à la fin du Nouveau Testament, il y a plus d'une cinquantaine de versets dans la famille les uns les autres. Et un des pasteurs qui a marqué ma jeunesse, Pierre Perrault, avait fait une étude en plusieurs étapes sur les uns les autres. Je m'en souviens un peu. Donc nous avons une responsabilité biblique, les uns envers les autres, à nouveau pas simplement quand nous sommes ensemble dans l'Église, mais autour de notre feu quand nous accueillons les uns ou les autres. Par exemple, Romains 12, on va lire 2-3 versets dans Romains 12. Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce que ça se limite à la vie communautaire dans l'Église? Ça fait 3 minutes que je dis le contraire. Vous avez le droit de dire que je me trompe, mais je prétends que non. Nous sommes tous membres les uns des autres. Ce n'est pas simplement une description de ce qui se passe pendant un culte ou pendant une étude biblique en commun. Nous sommes membres les uns des autres tout le temps. Vous avez déjà vu un corps qui se reconstruit tous les dimanches et puis qui se décompose tous les lundis matins. Ce ne serait pas bon, hein? Et un des défis d'une vie d'église, c'est justement qu'en dehors de la vie d'église, nous soyons de plus en plus concrètement membres les uns des autres. Ça veut bien dire que nos feux, nos foyers, doivent être des lieux où se passent des choses. Quelques versets plus loin, toujours Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. C'est 3-4 versets parmi les 50, les uns les autres. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Prévenance réciproque, même question toute simple. C'est seulement pendant les cultes? Mais non. C'est pendant toute la vie quotidienne, la prévenance. Et c'est en général, c'est surtout en dehors des cultes. On peut être bien intentionné pendant un culte, on peut aider quelqu'un à s'installer s'il est en difficulté, s'il est fatigué ce jour-là, on peut prendre de ses nouvelles. Mais c'est bien évidemment en dehors de la vie communautaire que le défi est tout à fait important. Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Respect de l'autre, etc. etc. Je m'arrête là. Mais donc, nos vies personnelles autour de nos foyers doivent être des vies qui sont marquées par l'hospitalité, par l'accueil. On y reviendra avec le troisième mot auquel j'arrive maintenant. Construire des foyers paisibles. Troisième mot, paisible. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Des feux de camp, des lieux de vie paisibles. Je pense qu'il y a deux idées à creuser. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Des vies construites de telle sorte que les choses soient paisibles. Mais à nouveau, c'est forcément en dehors de l'Église aussi. Donc la première chose, le minimum évoqué par ce mot paisible, c'est sans guerre. C'est un minimum, on va viser plus haut tout à l'heure. Le minimum, c'est pas de tension. On n'y arrive pas toujours. Mais c'est le minimum dans l'expression. Pas de tension, pas de guerre, pas de bagarre, pas de dispute. On a tout ça dans le Nouveau Testament. Hein. Pas de rébellion les uns contre les autres. Et ça existait dans les églises dès le début. Il y a un verset qui est très humiliant, que j'ai médité une fois ou l'autre, dans la lettre de Paul aux Galates, qui dit que c'est pas gagné de simplement ne pas se battre. On veut mieux que ça. Mais ne pas se battre, c'est pas gagné. Galates 5, verset 15. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Le verset qui précède dit « Toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le contexte, vous êtes libre, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour faire du mal à l'autre. L'apôtre Paul écrit à une église, et qu'est-ce qu'il leur dit? Attention de ne pas trop vous mordre. Parce que si vous vous mordez, et si vous vous dévorez les uns les autres, vous allez vous faire du mal. Il écrit à une église. Donc c'est pas gagné. Déjà ce niveau où on repousse les conflits, les tensions, les bagarres. Mais de toute évidence, il nous faut aller dans ce sens et il faut repérer ce que j'appelle le premier échelon. Un verset exigeant est réaliste, et je dirais d'autant plus exigeant qu'il est réaliste, donc on n'a pas d'excuse, parce qu'il est formulé de façon réaliste. C'est Romains 12, verset 18. Est-ce que vous souvenez de ce verset, probablement, qui dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Très exigeant, parce que très réaliste. Autant que c'est possible. Donc, ça veut bien dire qu'il va falloir faire des efforts et tendre à ça. Et notre expérience nous le dit, on est tous dedans, que c'est un effort qui dure toute la vie. Parce que il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y a des moments où nous, on est peut-être mieux disposés que d'autres. Il y a des moments où les autres sont mieux disposés et puis nous, on ne l'est plus. Et on se croise. Ça arrive, ça. Mais Romains 12, 18 nous dit, me dit, sois tendu vers ce but. Autant que cela dépend de vous, quel réalisme, c'est un verset incroyable. Soyez en paix. Avec qui? Les 3-4 plus proches? Non, non. Avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Donc, premier niveau de paix. Rejeter, combattre, limiter tout ce qui est, tout ce qui crée des tensions, des conflits, la guerre. Combattre les partis pris, les commérages, le manque de patience, les mises à l'écart, etc. Positivement, comment on va dire ça? Ça, c'est assez. On combat des choses négatives. Positivement, qu'est-ce qu'on va faire pour. C'est un peu mon deuxième échelon, puis il y en aura un troisième. Donc on va viser haut. Hein. Positivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut dire des choses qui correspondent à une vie paisible, mais tourner positivement, pas simplement limiter les bagarres, régler les conflits. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est ce que je propose être, le cran au-dessus, où on dit les choses positivement? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a plusieurs idées. Anna? Aimer. Alors oui, là c'est bon, tu as tout dit. Ok. Aimer. C'est quelqu'un d'autre? Ok. Alors très bien. Mais on va travailler et on va être à peine plus concret. Pardon? S'apprécier.
Poser des jalons qui font du bien.
Poser des jalons qui font du bien. S'apprécier et se le dire si possible. Sinon, on manque une bonne occasion de faire du bien. Encourager, donc parler, dire du bien, faire du bien. Très concrètement, prendre du temps. Sans temps, on ne va pas y arriver. Il faut inviter l'autre autour de mon feu. Faire un travail sur soi, oui. Faire un travail sur soi, se corriger, commencer par soi. Quelquefois, il faut commencer par soi. C'est très bien de penser aux autres. Mais quand on parle de nettoyage, quand on parle de purification, quand on parle de progrès, il faut commencer par soi. Mais donc, pour le dire positivement, pour aller vers l'autre, pour prendre du temps avec l'autre, pour inviter l'autre, pour accepter l'invitation de l'autre, pour dire du bien à l'autre, honnêtement, bien sûr qu'on ne va pas du tout cautionner des paroles qui seraient flatteuses au sens malhonnête éventuel du mot. Mais dire du bien, ne nous privons pas. Dans le dos, devant, derrière, on a le droit. Encourager. Voilà. Prendre du temps, être intentionnel pour créer du lien. C'est un peu ma deuxième étape. La première étape, c'est combattre ce qui abîme les relations. La deuxième étape que je vous propose, c'est favoriser ce qui crée des relations. C'est la même chose positivement. Et puis, je vous ai annoncé un troisième niveau. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quand on parle de paix dans la Bible, quel est le mot hébreu bien connu? Shalom. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu, médité? Qu'est-ce que vous avez un peu en tête concernant ce mot shalom qui va encore plus loin que ma deuxième étape? La première, c'est combattre les conflits, les guerres. La deuxième, c'est contribuer à tisser des liens. C'était un beau week-end d'église. Tiens, ça me revient. Tisser des liens. C'était le premier de la nouvelle série. On avait visé juste, hein, quel beau week-end. Tisser des liens. Mais qu'est-ce qu'il y a encore de plus dans le shalom? Certains ont des idées? Le shalom parle d'accueil. Il parle de paix. Peut-être qu'on peut penser à ce que Jésus dit, « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. » Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La paix qui vient de Dieu. Ce n'est pas simplement l'absence de tempête. Ce n'est pas simplement construire des liens paisibles. Il y a une notion de bien-être. Ça vous dit quelque chose? Dans le shalom, il y a le bien-être. Hein? Et c'est encore un cran au-dessus. Il y a la notion biblique du salut. C'est le bien-être par excellence. Hein? Être pardonné, réconcilié avec Dieu, restauré à l'intérieur, bien sûr, pas seulement la façade. Hein? Donc il y a tout ça. Donc là, on vise très haut. Construire des foyers paisibles, c'est construire des foyers qui vont contribuer à ce bien-être de l'autre. Le nôtre d'abord, mais aussi de l'autre. Un bien-être qui dépasse l'absence de guerre, qui dépasse des relations amicales et qui arrive à cette notion de bonheur intérieur, de bien-être. Et Dieu peut nous aider à contribuer à ce niveau-là, au bien les uns des autres. Quand l'apôtre Paul commence pratiquement toutes ses lettres en disant que la grâce et la paix soient avec vous, c'est pas simplement arrêter de vous bagarrer. C'est vraiment, il leur souhaite d'être dans cet état de grand bien-être lié à la grâce. Que la grâce est la paix. C'est cette paix-là qu'on veut. Et notre thème de ce soir m'a conduit à reméditer tout ce que je dois accepter comme étant un défi personnel. Autour de mon feu, je dois m'organiser par la prière, la lecture, la mise en pratique, la cohérence de vie, pour que mon petit coin de feu contribue au bien-être de ma propre vie, et de ceux que je vais inviter autour de feu, ceux qui vont passer à côté de mon feu et s'arrêter. Donc on a un grand défi personnel. On peut souhaiter que les églises, que notre église soit toujours plus pertinente dans ce qu'elles apportent à tous ceux qui rentrent. Mais l'étude de ce soir nous redit que chacun d'entre nous a une grande responsabilité pour construire un foyer paisible. Quelques mots encore concernant l'hospitalité, puisque je parle du bien qu'on va faire à d'autres. Romains 12, 13 est un des versets qui nous dit, je relis tout le paragraphe, qui ajoute de belles choses à d'autres belles choses. Romains 12, 9 à 13. Que l'amour, on en a parlé il y a quelques minutes, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Ce mot y est. Nous avons un devoir de contribuer au bien des uns et des autres en tâchant d'exercer l'hospitalité. Autre verset, Hébreux 13, 2, nous dit aussi l'importance de l'hospitalité. Hébreux 13, 1, persévérez dans l'amour fraternel. Et il y a 15 minutes, je vous taquinais un peu, soyons plus concrets. Hébreux 13, 1, persévérez dans l'amour fraternel. Phrase suivante, n'oubliez pas l'hospitalité. Invitez les gens autour de votre feu. Concrètement, ce n'est même pas forcément, pour moi, inviter quelqu'un à Heimsbrunn, ce qui est très bien. Mais c'est inviter quelqu'un sur mon parcours. Mon petit feu de camp du jour, il peut être en ville. Vous êtes d'accord ? C'est inviter l'autre à passer un temps avec moi. Donc, chez nous, c'est très bien. Mais n'oubliez pas l'hospitalité, c'est n'oubliez pas d'inviter l'autre. Dernier verset, 1 Pierre 4, 9, nous dit aussi cela. Dans le paragraphe solennel qui nous dit « Mettez vos vies en ordre, parce que le Seigneur revient bientôt, donc faites au mieux tout ce que vous avez à faire. » 1 Pierre 4, 7 à 9, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant. » On retrouve tout ça. « Car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. » C'est du concret, hein ? On retrouve la place de la prière, de ma relation avec Dieu. On retrouve la place de l'amour et, en application concrète, le temps qu'on va passer avec l'autre, qu'on va offrir à l'autre, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Construire des foyers paisibles. Je vais essayer de résumer, mais d'abord je vous donne la parole. Est-ce que vous voulez réagir à tout cela ? Compléter, soulever une question en relation avec l'un de ces trois mots que j'ai voulu égrener l'un après l'autre. Chacun d'entre nous a un foyer. Chacun d'entre nous est appelé à construire. Et chacun d'entre nous est devant ce défi de la contribution sur Terre à la paix. Oui, Martin ? Merci beaucoup, Martin. Notre attitude, notre accueil de l'autre peut contribuer à le mettre dans un contexte où il peut souffler, peut se sentir bien. On retrouve le shalom tout à l'heure, être en confiance. C'est plus que ne pas être en conflit. On est d'accord ? Tu l'as très bien redit avec tes mots à toi, Martin. C'est être en paix au sens d'un bien-être intérieur. Donc on peut s'offrir des lieux d'accueil, des lieux d'écoute, des lieux d'apaisement qui correspondent à ce grand niveau que dans ma proposition à moi, c'était le troisième niveau. La paix qui correspond à un bien-être. On se sent bien. Oui, merci beaucoup. Quoi d'autre qui vous vient à la pensée en complément ? Oui. Offrons-nous, et puis j'espère qu'on peut le vivre au présent, hein. Merci au Seigneur pour les merveilleux souvenirs que tu as, mais j'espère qu'on peut s'offrir aujourd'hui des regards d'accueil, de respect, de considération de l'autre qui vont dans la même ligne, et j'en ai heureusement des témoignages au présent en tête, de personnes qui sont étonnées qu'elles soient acceptées comme elles sont, entre autres en faisant partie du bas de l'échelle sociale, selon certains critères, et pouvoir être accepté comme un frère, une sœur, tout à fait à part entière. J'en connais plus d'un qui a été étonné positivement par ça. Certains endroits en dehors de l'Église peuvent offrir ça. Mais soyons, avec l'aide de Dieu, de ceux qui l'offrent particulièrement. Puisque Dieu veut nous aider lui qui nous a accueillis comme nous sommes, a tout particulièrement pratiqué l'accueil. On n'est pas du tout les seuls. Mais demandons à Dieu, et faisons de cela un grand défi, d'être de ceux qui perpétuent ce que tu rappelles de ton enfance et de ta jeunesse, hein, qui perpétuent ce sentiment d'accueil qui fait tellement de bien parce qu'on est apprécié, accueilli comme on est. Ok ? Merci. Brigitte ? C'est très juste, merci beaucoup, Brigitte. J'ai beaucoup dit ce soir que le Seigneur est celui qui peut nous aider, j'ai commencé par là. Il nous faut cultiver la piété pour pouvoir progresser et construire la maison, psaume 127. Mais tu nous rappelles, Brigitte, que ça va aller dans les deux sens. Et que plus on contribue à ces lieux d'accueil dans un contexte de paix et de respect de l'autre, plus on va favoriser la croissance de la piété. Et du coup, cette piété grandissante, on sera mieux équipé pour construire des lieux d'accueil et de respect et de bien-être. Donc oui, très juste. On est devant quelque chose qui peut faire boule de neige. Hein. Cultiver la piété nous permet de construire des lieux qui mettent à l'aise l'autre et qui nous mettent à l'aise nous-mêmes. Et être dans des lieux qui nous mettent à l'aise va nous permettre de progresser dans notre piété. Merci Brigitte. Quelques principes généraux que j'ai mis en conclusion. Des choses toutes simples. Importance primordiale de la piété et de ma relation avec Dieu. Deuxième principe que j'ai remis en conclusion, prendre soin de soi et de sa vie intérieure pour pouvoir prendre soin des autres. Prendre soin de soi et de sa vie intérieure pour pouvoir prendre soin des autres. On peut quelquefois peut-être trop vite courir vers des missions à accomplir en oubliant qu'il est très important d'être le mieux possible nous-mêmes pour faire du bien autour de nous. Troisième principe qui m'aide à repasser tout ça dans ma tête et que je vous propose, importance du temps, de la patience, de la persévérance, c'est toute la même ligne. Hein. Accepter cette idée que les choses prennent du temps et construire en acceptant que ça prend du temps, qu'il faut donner du temps et que les choses ne se passent pas d'un jour à l'autre. Quatrième et dernière idée que j'ai mise sur mon papier. La barre est haute, mais ce que Dieu nous demande de construire est tellement beau. La barre est haute. Hein. Mais soyons attirés, soyons stimulés par la beauté de ce que Dieu veut pour nous et pour nos foyers à nous tous. Et je termine où j'ai commencé. Nos foyers, c'est vraiment nos lieux de vie à chacun, chacune, dans quels que soient les contextes très différents dans lesquels nous pouvons nous retrouver. La beauté de ce que Dieu veut pour nos foyers peut nous encourager, nous stimuler au moment où le vertige pourrait nous prendre devant le grand défi de pas mal de choses qu'on a rappelées ce soir. Voilà. Je vous souhaite de mettre tout ça en pratique et je vais encore prier avec vous. Seigneur, merci beaucoup parce que nous avons lu quelques textes, nous avons échangé quelques idées, quelques témoignages, et nous pouvons maintenant nous tourner vers toi encore et te demander de nous aider à repasser dans notre cœur cela et à faire quelques pas dans la bonne direction en bénéficiant de ce que tu nous as rappelé ce soir toi-même par ce temps de méditation en commun et parce que ton esprit veut éclairer chacun, chacune d'entre nous. Accompagne-nous dans le retour à la maison maintenant, dans nos foyers, et accorde-nous la grâce de vivre des progrès dans les jours qui viennent et de contribuer chacun au bien de ceux que nous rencontrons, de ceux que nous pouvons accueillir dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Amen.